Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.
Bonjour, notre invité est Bruno Tertrais. Il est directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, expert associé à l'Institut Montaigne. Il a publié une quinzaine d'ouvrages de géopolitique et de stratégie. Il vient sortir un nouveau livre qui s'intitule « La question israélienne » et c'est un livre qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Bruno Tertrais, bonjour.
Bonjour.
Qu'entendez-vous par la question israélienne ?
La question israélienne, elle est pour moi toute simple. Est-ce que l'État d'Israël est un État exceptionnel et est-ce qu'il mérite autant d'attention dans le débat international ? Est-ce qu'il y a des critères objectifs qui font que on s'intéresse davantage à Israël qu'à bien d'autres pays qui connaissent des situations de conflictualité ?
Alors justement, Bruno Tertrais, donc c'est la question centrale de votre livre. Hein. Pourquoi l'un des plus petits États de la planète, de la taille de la Bretagne, en fin de compte, suscite-t-il autant de passion? Est-ce que vous avez pu avoir des réponses à cette question?
Effectivement, sans déflorer le propos du livre, je conclus que parmi toutes les explications possibles, dans les faits, la seule chose qui permet d'expliquer, non pas de justifier, mais d'expliquer la stigmation particulière d'Israël, qui n'est pas le seul État qui connaisse des situations complexes du point de vue territorial, qui n'est pas le seul État en guerre contre ses voisins, qui n'est pas le seul État qui connaisse une situation qualifiée d'occupation d'une partie des territoires voisins, et bien finalement, au bout du compte, la seule explication possible, c'est qu'il s'agit d'un État juif et que cette caractéristique très particulière qui rend l'État d'Israël unique, cette conclusion très simple, finalement, c'est à mon sens la seule possible. Israël est particulièrement sous les feux des projecteurs parce que c'est un État juif, tout simplement.
Voilà, mais encore reste à savoir ce qu'on entend par État juif, hein, parce que le juif, on peut comprendre une religion, mais ça peut aussi être une culture, hein, c'est pas seulement une religion.
Tout à fait, et j'imagine bien que vos auditeurs connaissent ce sujet encore mieux que moi, mais ce qui me semble intéressant justement, c'est de constater que dans le débat public, y compris en France d'ailleurs, parfois on assimile l'adjectif ou le nom juif à une religion, alors qu'en fait c'est bien évidemment d'abord et avant tout un peuple et une culture, et d'ailleurs l'État juif lui-même, l'État d'Israël, il l'est au sens de la culture bien davantage que de la religion. Vous connaissez le débat qui a eu lieu il y a quelques années à propos de la loi fondamentale israélienne. Encore faut-il rappeler tout simplement que dès le plan de partage de l'ONU en 1947, il était déjà question d'un État juif dans le texte.
Voilà, mais un État quand même qui reste sur le fond laïque.
Oui, tout à fait. Je préfère dire plutôt séculier, puisque le terme laïque est finalement très très français. Il s'applique peut-être davantage à la France. En tout cas, notre conception de la laïcité en France est assez singulière. Je préfère en effet parler d'État séculier, même si, et c'est une caractéristique de la période récente, on le sait, les religieux, ce qu'on appelle les sionistes religieux, mais aussi les ultra-orthodoxes, prennent une place de plus en plus importante dans la société israélienne et bien sûr dans la politique israélienne.
Alors aujourd'hui, on ne parle plus tellement d'antisémitisme, on parle plutôt d'antisionisme. Et vous consacrez justement un chapitre à ce sujet. Alors le chapitre s'intitule « De quoi l'antisionisme est-il le nom ?» Ici aussi, c'est une question centrale.
Oui, et c'est vrai que c'est l'un des nombreux dévoiements sémantiques auxquels on assiste dans le débat international, pas seulement français, à propos d'Israël. Ce n'est pas totalement nouveau le fait que l'antisionisme soit devenu le masque de l'antisémitisme, et bien des antisionistes se prétendent absolument antisémites. Ce que je constate en revanche, c'est que la porosité entre ces deux accusations, celle d'antisionisme et celle d'antisémitisme, est de plus en plus forte. Dans les faits, si on peut déjà s'interroger sur la légitimité d'une accusation d'antisionisme qui consiste à dire qu'un État parmi 200 autres sur la planète n'aurait pas le droit d'exister comme bon lui semble. Dans les faits, on constate que l'antisionisme est devenu en fait une forme masquée d'antisémitisme, parfois à demi avoué, parfois pas du tout avoué, parfois à l'extrême. On peut dire qu'effectivement certaines personnes, d'ailleurs des juifs aussi, contestent l'existence même de l'État d'Israël. Mais ce que je trouve troublant, c'est que dans le débat public actuel, il y a une confusion de plus en plus forte, en effet, entre ces deux termes dans les faits.
Vous posez la question dans votre livre, Bruno Tertré, l'État de Palestine existe-t-il ?
Oui, c'est une question qui peut avoir plusieurs types de réponses, mais moi je préfère, comme souvent dans ce livre, m'en référer d'abord et avant tout au droit international qui établit des critères assez simples pour l'existence d'un État sur la scène internationale. Alors, il faut un territoire bien défini, une population aussi définie, et puis une souveraineté et une capacité à entrer en relation avec d'autres États. Et l'on constate que sur l'application de ces critères, que l'existence aujourd'hui d'un État de Palestine est sujette à caution. Elle est une évidence pour nombre de gouvernements sur la planète. Elle n'est pas du tout une évidence du point de vue du droit international qui, je le répète, donne des critères précis sur ce point.
Alors, Bruno Tertré, la question, après ce qui s'est passé ce qui s'est passé en octobre 2023, on en est à se poser la question si la coexistence pacifique est encore possible. D'ailleurs, vous posez la question dans votre livre.
Oui, je me définis comme un ami d'Israël, mais un ami inquiet à nombre de titres, et notamment du point de vue de son évolution politique. Depuis le 7 octobre, l'idée d'une réconciliation ou d'une entente durable entre la population israélienne et la population dite palestinienne me semble de plus en plus difficile. Je continue à penser que ce qu'on appelle parfois la solution à deux États est la pire des solutions, à l'exception de toutes les autres, mais je constate que l'appétence pour le vivre ensemble en Israël est devenue beaucoup moins marquée. C'est un euphémisme depuis le 7 octobre. Voilà pourquoi je crois que la séparation, qui est la pente naturelle d'ailleurs de la vie politique sur place, de la vie sociétale sur place depuis déjà une vingtaine d'années, est la seule solution possible. Mais bien entendu, certains en Israël, y compris des responsables politiques qui ont le vent en poupe, estiment que, à l'inverse, c'est plutôt l'annexion totale ou partielle de la Cisjordanie qui devrait être d'actualité. Mais je constate qu'un ressort s'est cassé après le 7 octobre, et que ce qu'on appelait à une certaine époque le camp de la paix, je ne sais pas si c'est une bonne expression, une bonne définition, a totalement disparu.
Alors justement, vous parlez du paradoxe d'Oslo.
Oui, Oslo, ce qui a été établi à Oslo il y a déjà plus de 25 ans, est paradoxalement quelque chose qui a rendu la paix plus facile et la paix plus difficile. La paix plus facile parce que la reconnaissance de l'idée d'une entité politique palestinienne et d'une séparation de fait entre un peuple israélien et un peuple palestinien est devenue plus facilement acceptée. La question de la sens de l'existence d'une entité politique autonome de part et d'autre est finalement beaucoup plus acceptée qu'elle ne l'était il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, mais qu'en même temps, depuis 1993, et bien finalement un certain nombre d'évolutions font que la stabilisation et encore plus la paix devient plus difficile. Je pense notamment à la montée de l'islamisme et de l'extrémisme religieux du côté des Palestiniens, mais je pense aussi à la radicalisation politique d'une partie de la société israélienne. Et donc finalement, même si Oslo avait tout de même jeté les bases d'une forme de coexistence pacifique, aujourd'hui je crois qu'on n'est pas plus près, surtout depuis le 7 octobre, qu'on n'est pas plus près d'une stabilisation politique durable de la situation au Proche-Orient qu'on ne l'était à l'époque.
Mais est-ce que le mouvement Hamas lui-même ne fait pas en fin de compte obstacle à la paix, parce que est-ce que le Hamas veut la paix ou est-ce que le Hamas veut l'éradication de l'État d'Israël?
Dans tous les cas de figure, il n'est pas possible de faire la paix avec des mouvements comme le Hamas, mais aussi le Hezbollah, dont l'objectif déclaré est la disparition, au moins politique, si ce n'est physique, de l'État d'Israël. Donc bien évidemment, l'existence même de ces mouvements est un obstacle à la paix. Ce que l'on peut espérer, c'est que la séquence des opérations militaires conduites par Israël depuis le 7 octobre va rendre désormais ces mouvements non pas inexistants, mais non pas éradiqués, comme on le dit parfois, mais suffisamment faibles pour ne plus être en eux-mêmes un obstacle majeur à une solution politique durable dans la région.
Alors, comment, Bruno Tertrais, comment vous voyez le problème évoluer? En fin de compte, on ne peut pas faire de la politique fiction, mais c'est vrai quand même qu'on est inquiet pour l'avenir.
Bien sûr, et malheureusement, cette inquiétude, elle est permanente, elle est structurelle depuis l'indépendance de l'État d'Israël. Je trouve qu'un paradoxe, finalement, aujourd'hui, c'est que, alors que le peuple juif trouvé plus isolé depuis le 7 octobre du fait des critiques qui ont été émises à juste titre ou pas, peu importe, à l'encontre de la politique de l'État d'Israël depuis le 7 octobre, et que nombre de Juifs se sentent isolés même dans des États européens comme la France, se sentent seuls. Le paradoxe, c'est que l'État d'Israël est moins seul aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 5 ans. Israël est tout de même un État qui a établi des relations diplomatiques durables avec des pays qui ont longtemps été, sinon des ennemis, du moins des adversaires. Israël a aujourd'hui aux États-Unis un allié solide, quoi que l'on pense de M. Trump et de la politique de son administration. Et donc ce paradoxe pour moi, c'est que voilà, Israël est moins isolé qu'il ne l'était il y a 10 ans, on va dire, mais il me semble que le peuple juif, les juifs un peu partout dans le monde, se sentent davantage seuls.
Bruno Tertrais, alors nous arrivons au terme de cet entretien. Alors, avant de nous séparer, je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et expert associé à l'Institut Montaigne. Vous êtes l'auteur d'un nouveau livre qui s'intitule « La question israélienne », un livre paru aux éditions de l'Observatoire. On peut écouter cet entretien sur notre site rcnradio.info. Bruno Tertrais, je vous remercie.
Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.